Bonjour à tous. Nous sommes de retour avec vous pour ce deuxième épisode de Détour en cours qui vous amène à la rencontre de personnes qui partagent leur expérience d'accès aux soins VIH partout au Québec. Ce mois-ci, le portail s'est rendu en Mauricie pour rencontrer des personnes qui ont du cœur et qui nous montrent que l'on peut faire de grandes choses en restant soudés dans les moments difficiles. Nous avons rencontré nos trois invités à la Maison René, un hébergement de soins pour les personnes vivant avec le VIH situé à Trois-Rivières. Après quelques minutes passées à cet endroit, l'amour et la bienveillance qui émanaient des lieux étaient palpables. La Maison René contient de multiples histoires, des combats pour la vie, des moments plus difficiles, mais également de grandes victoires. Fondée en 1992, l'hébergement offrait des soins en fin de vie pour les personnes en phase SIDA. Puis, avec l'émergence de la trithérapie en 1996, les services offerts par la Maison René se sont tranquillement adaptés à cette nouvelle réalité, mais les besoins ont toujours été présents et le sont encore aujourd'hui. Chacun et chacune de nos invités ont un lien particulier avec cette maison. Il y a d'abord Linda qui vous racontera son parcours d'accès aux soins VIH et comment elle a été accompagnée par les intervenants et intervenantes au sein de l'hébergement. Puis, Carole Larouche, infirmière auxiliaire et responsable des soins à la Maison René, qui s'est trouvée une vocation dans le milieu communautaire. Finalement, Jean-Marc Fortin, qui s'implique comme père aidant au sein de l'hébergement, vous partagera son expérience.
Pandémie, hein, le VIH.
C'est
fou. Mm-hmm. Je regardais quand j'ai fait mes devoirs, dans le fond. on a bien plus de gens qui décèdent du VIH, qui décèdent du fameux virus qu'on a là. Donc, quand on regarde mondialement, là,
mm-hmm. C'est sûr.
Puis pourtant, on n'a pas de vaccin encore pour le VIH.
Non.
C'est nous, c'est pas parce qu'à quelque part, ça commence à être urgent. Mm-hmm. Parce que le 95, c'est beau. En papier, c'est très beau. Mais comment tu fais pour aller chercher
les
gens pour le 5%? Mm-hmm. Parce qu'on aimerait tout ça avoir le 100%. Mm-hmm. Comment on fait pour les rattacher quand ils sont dépendants de la toxicomanie? Puis, comme Linda disait, c'est souvent. Tu vas entendre le mot VIH, ça va droguer. C'est une normale qui est. Non.
Mm-hmm. Oui, puis il n'y a pas de genre de faute. Des fois, quand les gens disent comme qu'ils vivent avec le VIH, c'est comme tout de suite comme si tu avais eu un comportement
à risque.
Ou un mauvais comportement, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de faute à aller chercher. Puis comme...
C'était moi, juste dans ma famille, donc, que j'ai annoncé que je travaillais avec une personne du VIH. Il a fallu que je fasse un enseignement de A à Z, parce que c'était une mode panique. Là. C'est vrai que quand tu connais pas ça, c'est plus vrai.
Oui, mais on devrait plus en parler et mieux connaître
la vie. C'est vraiment l'enseignement, c'est la base essentielle. C'est comme n'importe quelle maladie, dans le fond.
Ouais.
C'est l'enseignement qui fait la différence. Oui, on entend plus parler aujourd'hui que le VIH ne se transmet plus par une chaise, par un voile, par une part un peu. C'est quelque part. Faut pas négliger le fait que le VIH et la phase SIDA, c'est une part de deux mondes. Là. Quand t'es en phase SIDA, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Il y en a qui ne répondront pas en médication. Ouais. Ça va prendre plusieurs essais et vraiment. Moi, j'ai des chances.
Dans cet extrait, Carole, infirmière auxiliaire de la Maison René, mentionne que l'éducation reste encore aujourd'hui un grand obstacle à l'accès aux soins VIH au Québec. Pour des personnes qui n'ont jamais été en contact, de près ou de loin, avec le VIH, recevoir un test positif demande un accompagnement qui assure la bonne compréhension des enjeux concernant le virus, la thérapie et les effets secondaires qui peuvent survenir.
J'étais une mère et une sœur au foyer parce que je garde ma sœur qui est handicapée, intellectuelle. J'ai mon garçon qui est trisomie 21. J'ai une fille qui a fait 2 beaux enfants. Fait que je suis grand-mère aussi. Fait que je suis comblée ce côté-là. J'ai le même conjoint depuis 8 ans. On est fiancés. Puis j'ai mon beau-fils aussi, qui est comme mon gars. Puis c'est ça, je fais mes petites routines à la maison. Ça fait 20 ans que je suis séropositif.
Dans sa vie, Linda a toujours pris soin des autres et de ses proches. Quand elle a su qu'elle vivait avec le VIH, une nouvelle charge mentale s'est ajoutée qui l'obligeait à s'arrêter et prendre un moment pour penser à elle, à la nouvelle routine de soins qu'elle devait instaurer. Une personne vivant avec le VIH depuis peu est confrontée à de nouvelles responsabilités pouvant être difficiles à intégrer et qui risquent à la longue de causer une barrière d'accès aux soins. Le rôle des professionnels de la santé dans ce contexte particulier est de faciliter l'expérience des personnes vivant avec le VIH dans leur parcours médical et, outre le virus, à travers leur passage en milieu hospitalier en général. Il est important pour les médecins, infirmiers et infirmières de s'informer sur ce qu'est le VIH en 2020, quelles sont les avancées par rapport au traitement et à la prévention. Il est aussi primordial d'avoir des intervenants et des intervenantes qui relaient l'information aux personnes vivant avec le VIH et qui les accompagnent là où elles sont rendues dans leur cheminement vers la prise de responsabilité, et ce, dans le non-jugement. Écoutons l'histoire de Linda, dont l'état de santé a été un jour critique avant que les intervenants et intervenantes de la Maison René lui fassent réaliser qu'il était important qu'elle prenne soin de sa santé.
Le parcours pour enfin me soigner, c'était très long et très difficile parce que, en premier lieu, j'étais avec un gars qui, lui, avait le VIH, mais je ne savais pas c'était quoi. Je savais juste que ça s'attrapait par le sang puis par les rapports, mais les seules informations que j'avais, ça venait de lui. Tu sais, on n'en parlait jamais, puis c'est sûr que dans le temps, on consommait. Fait que, à Londres, j'ai passé un test. Puis, le 14 février 2000, la journée de la Saint-Valentin, mon conjoint ne pouvait pas venir avec moi, mais ne voulait pas venir avec moi au rendez-vous. C'était son médecin à lui. Fait que je suis rentrée dans le bureau, puis là, je me disais, bon, je ne suis pas nerveuse. De toute façon, ça Saint-Valentin, j'étais avec l'homme que j'aime. Je ne pouvais pas savoir c'était quoi la maladie, qu'est-ce que moi, ça m'enlevait. Je rentre dans le bureau du médecin, fait qu'il me dit, t'es positif. Fait que moi, avec le gros sourire, tant mieux. Il dit « Non, c'est pas un test de grossesse, ça, là. Positif, ça veut dire que t'as la maladie. T'as-tu des questions? » Non. Tu sais, moi, j'étais... D'un côté, dans l'innocence du moment, j'étais contente parce que avec mon conjoint, c'était, tu sais, une preuve d'amour. Fait que je suis rentrée chez nous, je l'ai annoncé au conjoint, il m'a laissé. Il dit « Maintenant, il dit, tu l'as, j'ai plus rien à faire. » Fait qu'il m'a laissé pour un autre, mais après, tu sais, j'étais toujours dans des situations où quelqu'un avait besoin, où j'avais beaucoup d'épreuves à ce moment-là. Je me cachais, puis je me disais, bon, c'est pas grave, tu sais, je le ressens pas, de toute façon, je sais pas c'est quoi. Au fil des ans, j'ai commencé à prendre la médication, sauf que j'ai pris une semaine, je me disais, ah, ça me rend malade. Quand j'y prends pas, je suis pas malade. Quand j'y prends, je suis malade. Fait que j'arrêtais, je recommençais. J'allais pas demander de l'aide parce que moi, j'en avais pas besoin. J'étais pas du style, j'aidais les autres, j'avais pas besoin d'aide. Puis les autres, ils connaissaient pas plus ça parce que j'ai jamais connu quelqu'un qui avait le VIH ou qui avait passé des épreuves de ces maladies-là. C'est beaucoup plus tard que j'ai fait la connaissance de Carole. J'avais des problèmes de bien-être. Pour avoir un soutien financier, j'étais rendue tout seul. Puis j'avais pas plus d'argent pour subvenir mes besoins. Fait que je me nourrissais pas. C'est là que j'étais en lien avec Maison René. Je recevais de la nourriture. Fait qu'ils me voyaient tout le temps dépérir. À toutes les fois que je rentrais à l'hôpital, c'était en ambulance. Jamais j'allais par moi-même. C'était pas grave. Puis dans ce temps-là, j'étais amatrice des speed. Fait que, tu sais, pas, je me gelais pas pour oublier la réalité. J'en prenais toujours un morceau sur 4 pour faire ma journée. Comme ça, je pouvais faire mon ménage, je pouvais aider ceux qui venaient chez nous. Je dormais pas, puis ça me faisait pas manger. Fait que j'étais bien. jusqu'au jour où ça servait plus à rien. T'sais, j'étais couchée chez nous, puis j'avais ma Artemis, ma chienne. Elle n'est plus là, là, mais... Mais, tu sais, je pouvais pas aller à l'hôpital puis rester à l'hôpital parce qu'elle avait besoin de moi. Tu sais, il fallait que je vienne m'en occuper parce que je pouvais pas compter sur personne. Fait que je rentrais à l'hôpital, le docteur Bouchard, à toutes les fois, il venait dans ma chambre, puis là, il essayait de... Parce que c'était tout le temps pour des pneumonies, beaucoup d'anémie aussi. Il essayait de me soigner, mais je pensais tellement pas à moi. C'était plutôt, ah, faut que j'aille chez nous. Tu sais, il y a du monde qui m'attend. Ma chienne, il faut que j'aille avec elle. Fait que je m'en fuyais. Tu sais, je signais des refus de traitement ou je commençais mes traitements pour la pneumonie. Puis après 3-4 jours, oups, je fais mieux. Bon, j'arrête. Tu sais, fait que c'était toujours l'accumulation. Puis à un moment donné, là, c'est vraiment été. J'étais dans mon lit. C'est ma voisine qui prenait soin de moi. Puis Carole, avec Nancy, arrivait à la maison, puis il me disait, ben là, il faut appeler l'ambulance la prochaine fois. Là. Non. Moi, je veux rester ici. Tu sais, je voyais pas le but. Tu sais, je prenais ma petite pilule, puis je pouvais fonctionner pendant 2-3 jours. Je me reposais 2-3 jours parce que j'étais plus capable de bouger. Je faisais 93 livres. Puis j'étais face sida, il me restait pas grand temps. Il y a eu l'activité du bateau. Fait que Carole est venue me chercher. Puis là, on dirait que ça m'a montré, tu sais, à quel point j'étais rendue. Parce qu'elle m'a dit, regarde, faut que tu te réveilles, là. Tu sais, il te reste plus grand temps. À partir de ce moment-là, j'ai pogné le champignon dans l'œsophage. J'étais plus capable de manger, j'étais plus capable d'avaler. Fait que là, mon médecin a décidé que si je voulais m'en sortir, au moins au oesophage, si je voulais au moins avaler, il fallait que j'aille des antibiotiques. Sauf que fallait que je rentre à Maison René. Moi, je connaissais pas ça. Là, Carole est venue me porter un panier de nourriture chez ma mère, parce que j'aidais ma mère parce qu'elle se faisait opérer. Elle est rentrée dans la maison, puis elle m'a dit, je te donne jusqu'au... C'est le 8 ou le 11, je suis pas trop sûre de la date. À où? Pour rentrer à la maison. Sinon, on peut plus rien faire pour toi, puis tu vas mourir, puis il te reste à peu près ça. Fait que ça a fait OK, un ultimatum, pas décevoir quelqu'un. Fait que j'ai appelé mon travailleur de rue que j'avais dans ce temps-là, Benoît. J'ai demandé un livre. Je suis rentrée ici, à la maison, par les marches, mais c'est Benoît qui a fallu qu'il me prenne dans ses bras, puis j'avais même pas la force de monter des marches.
En écoutant le témoignage de Linda, on réalise que même si le traitement antirétroviral existe, certaines personnes peuvent encore aujourd'hui se retrouver en phase sida avant d'entamer plus rigoureusement la prise de médication. Ce que nous avons remarqué au portail avec le projet de recherche Accès Plus, entre autres, c'est que des éléments comme la santé émotionnelle et la réalité socio-économique ont des rôles importants à jouer dans l'adhérence à la prise de médicaments. Un stress causé par une instabilité financière peut s'amplifier suite à un diagnostic. Certaines personnes vivant avec le VIH doivent prendre des décisions difficiles comme de s'endetter pour payer la franchise de leurs assurances médicaments. Les assurances privées, non adaptées à la réalité des personnes vivant avec le VIH, peuvent contribuer à des arrêts de traitement involontaires ou à une adhérence plus difficile. Cela donne une nouvelle dimension à la perception du traitement, celle d'une charge économique qu'il faut pouvoir et savoir gérer. Un autre aspect qui compte lorsque l'on parle d'adhérence à la médication sont les relations que les personnes vivant avec le VIH établissent avec leur famille, amis, intervenants et intervenantes communautaires et professionnels de la santé. En effet, elles façonnent de manière plus ou moins significative leur parcours de vie. Quand ces liens relationnels sont faibles ou inexistants, leur absence laisse place à un vide que l'on appellera « vide émotionnel ». Notamment, les liens avec la famille et les amis peuvent faciliter des comportements qui mènent à une adhérence au traitement. Cette adhérence peut être, à son tour, un facilitateur pour l'accès aux soins.
La maison René, c'est une maison d'hébergement qui offre 7 places en hébergement. Elle est établie depuis 1992, quand même. Donc, non, c'est pas connu de tout le monde, je vous rassure. Même à Mauricie, il y en a qui connaissent pas Maison René. On a l'accès au centre de jour pour les externes. Ils peuvent venir de 9h à 21h. C'est toujours ouvert. On offre la possibilité de venir dîner avec nous du lundi au vendredi. On fait des boîtes moissons qui se trouvent à des boîtes alimentaires à chaque semaine, aussi à faible coût, qui peuvent aider. Je te dirais que Maison René est quand même une place où ce que les gens peuvent venir socialiser de leur statut, parce que c'est la seule place ici. Quand on parle entre Montréal et Québec, là, on élit ça. Donc, c'est sûr que oui, c'est important. Oui, le fait qu'il y ait une infirmière auxiliaire sur place aide beaucoup, que ce soit pour la prise de rendez-vous, les prises de sang, la prise de signes vitaux, neurologiques, les soutiens à domicile, que ce soit pour le contact avec les médecins. Souvent, les premiers rendez-vous, je me présente avec eux, justement pour faciliter le transfert de dossier. On les réfère aux besoins. On essaie de répondre le plus possible à la personne. Parce qu'on ne se cache pas, les besoins sont lourds. Surtout en cette période de pandémie, je pense que c'est encore un petit peu plus criant même, là, pour ce qu'on appelle le psychologique, le social. Je veux pas, les personnes atteintes n'ont pas la même relation avec les autres, parce qu'eux autres-mêmes se sentent pas confortables avec leur statut. Moi, originaire du lac Saint-Jean, de là mon accent prononcé. J'ai été éducatrice en garderie pendant 25 ans avant de me réacheminer vers l'école pour suivre mon cours d'infirmière auxiliaire qui fait maintenant 9 ans quand même. Je suis maman de 2 enfants et mamie de 3 petits-fils quand même. Fait que je te dirais que j'ai travaillé dans les centres hospitaliers, j'ai travaillé dans les résidences pour personnes âgées. Mettons que c'est comme pas très comparable avec le communautaire. Pour ce qui est de mon cheminement personnel, je préfère le communautaire. Personnellement, j'aime avoir de nouveaux défis. La routine, c'est pas vraiment pour moi. Donc. Je cherche vraiment à avoir une relation, pas intime, mais directe avec les gens. Et non comme des numéros, comme au centre hospitalier. Ça marche pas par nom, ça marche par chambre. Ce qui je trouvais qui était moins personnel, ça n'empêchait pas de faire notre travail. Mais sauf que je me disais qu'on est comme perçu comme une personne qui sert le numéro et non qui sert la personne en tant que telle.
Les services offerts par la Maison René sont motivés par le principe de santé globale. Le fait de considérer les différents besoins de chaque usager et usagère de la maison et d'y répondre tant bien que possible facilite l'accès aux soins des personnes vivant avec le VIH.
Maison René a mis en place le soutien à domicile justement pour s'assurer de la prise de médication, l'adhérence, la continuité, pour répondre justement à l'objectif du 95 qui est en 2025 maintenant. Ça va quand même relativement bien. C'est sûr que, bon, on nous que ça l'adhère plus ou moins, mais au moins, ben on essaye justement de répondre le plus possible, d'aller vérifier les besoins, parce que c'est multiproblématique. Les personnes atteintes, là, c'est pas parce qu'elles sont atteintes qu'ils ont juste ça, le VIH. Il y a plusieurs problématiques là, qui se rattachent avec ça. À la prise de médication, justement, des antirétroviraux, Oui, qui sont très, très efficaces maintenant, parce qu'on sait que la personne atteinte maintenant a la même espérance de vie que nous. Mais sauf qu'il y a des effets secondaires des antirétroviraux à la longue. Ça qu'on voit à domicile, c'est surtout ceux qui n'ont pas de véhicule pour venir. Il y en a qui ont besoin de plus parler, plus ventiler. C'est pas nécessairement pour le VIH, mais ça fait quand même partie de l'équilibre qu'on essaye d'avoir justement avec nos patients, puis le contact humain, qui fait en sorte que j'aime ce processus-là de soutien à domicile.
SIDA s'est doté en 2016 d'objectifs ambitieux à atteindre afin de lutter contre la transmission du VIH dans le monde en 2020, soit les objectifs 90-90-90. 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % de ces personnes sont sous traitement et 90 % de ces personnes ont une charge virale indétectable et durablement supprimée. Pour 2025, l'ONU SIDA a fixé comme objectif 95-95-95. Les avancées relatives au traitement du VIH permettent en effet de réduire de manière efficace la transmission du virus, puisqu'il est scientifiquement prouvé que les personnes vivant avec le VIH sous traitement efficace et régulier et qui ont une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le VIH par voie sexuelle. On parle ici du message I égale à I, indétectable égale intransmissible.
Le gros défi de l'accès aux soins, je te dirais que c'est la toxicomanie. C'est elle qui nous bloque le plus souvent. Parce que ceux qui sont pas consommateurs, ils adhèrent très bien à la médication. C'est les personnes qui sont toxicomanes, qui se désorganisent dans le fond, dans la société. C'est eux qui sont nos plus grands défis. C'est sûr qu'on les réfère aux besoins, là, mais c'est parce que pas tout le monde qui sont prêts à aller genre en thérapie, que ce soit en interne ou en externe. C'est pas donné, non. Il faut que tu aies le bon vouloir. C'est souvent des personnes qui ont eu une enfance difficile, donc ils se sentent déjà rejetés d'avance par la société. Fait que le fait d'avoir le VIH en plus n'aide pas la cause. Fait que, tu sais, souvent c'est la confiance en soi qui est absente, complètement. C'est sûr que quand l'injection va arriver, bon, on sait qu'elle est arrivée, il y a quand même un processus à faire avant de tomber sur l'injection. C'est une prise de médication, 7 jours en ligne. Il est là, mon petit hic, là. C'est parce que j'en ai beaucoup que, oui, ils vont la prendre, mais tu sais, ils vont être 3-4 jours à la prendre, puis ils vont être 2-3 jours à ne pas la prendre. Ils partent une semaine, ils sont pas pires. Ils apprennent une fois sur deux dans la journée, puis là, on y perd pendant un mois de temps. Là, fait que c'est là qui est difficile.
La solution la plus envisageable qui favoriserait une adhérence au traitement VIH pour les personnes qui consomment des drogues est la thérapie par injection. Ce nouveau traitement, qu'on nomme le Cabenuva, a été approuvé par le Canada et sera disponible en 2021. La thérapie par injection remplace la prise de médicaments chaque jour en rendez-vous mensuel où une injection à effet longue durée sera effectuée par un ou une professionnelle de la santé. Attention, le changement d'un traitement en comprimé à un traitement par injection ne se fait pas du jour au lendemain. Avant de commencer le Cabenuva, il faut tout d'abord faire un suivi avec son ou sa professionnelle de la santé. Et elle doit s'assurer que le patient ou la patiente accepte de se soumettre aux injections chaque mois. Et elle doit également l'informer que pour mettre toutes les chances de son côté, le ou la patiente devra respecter précisément le calendrier des injections prévues. Manquer une injection expose les personnes vivant avec le VIH à un risque de rebond virologique et à l'apparition de résistance. Ensuite, les patients doivent prendre un traitement par voie orale pendant une période d'au moins 28 jours pour être sûr qu'il n'y a pas d'allergie ou d'effet indésirable. Penser à son traitement moins souvent était le souhait de nombreuses personnes qui vivent avec le VIH et qui prenaient jusqu'à maintenant au minimum un comprimé par jour à chaque jour. Dans notre recherche Accès Plus, plusieurs participants et participantes ont évoqué cette difficulté de la fatigue du traitement, de la lassitude de devoir prendre une pilule par jour à vie. Penser à son traitement chaque jour replonge certaines personnes vivant avec le VIH dans le vécu de la maladie et nombre d'entre elles souhaitent s'en distancier. Grâce à ce traitement, ce serait simplement une fois par mois. Imaginez ce changement quasi révolutionnaire pour ces personnes.
Soin de moi, me disait de ce que moi j'avais besoin, ce que j'étais pas capable de dire. C'était de me laisser une chance à moi de pouvoir survivre, parce que ça, j'étais habituée à survivre. Vivre ou partir, ça me dérangeait pas. Bien là, c'était plus d'apprendre à vivre avec moi-même, pour moi, pour pouvoir être plus apte à plus aider les autres aussi. Les premiers temps, j'avais de la misère à fonctionner. Fait que, tu sais, je descendais avec la chaise. Tu sais, ce qui a beaucoup aidé, parce que les marches, c'est quand même assez compliqué. Il y avait les repas. Moi, qui n'étais pas habituée de manger, on me les faisait. Puis aussi, j'étais traitée comme une reine les premiers temps. Là. On me desservait, on me servait. C'est pas toujours comme ça. Mais, tu sais, j'ai eu la chance de vivre ça. Il y avait l'infirmière, il y avait le travail social qui parlait aussi de pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais dans l'ignorance aussi longtemps. Puis, j'étais tellement bien avec d'autres personnes aussi. Ils voyaient arriver d'une telle façon, puis à peine 20 jours plus tard, j'étais beaucoup mieux. Là, j'ai commencé mes antiviraux, puis là, whoop, je répondais aux antiviraux, c'est tout remontait. Avec tout ça, tu sais, j'ai quand même resté 4 mois. S'il n'y aurait pas cette petite famille-là, aujourd'hui, je ne serais plus là, de toute façon. Je ne m'aurais pas donné la chance. Mais aujourd'hui, si j'ai quelque chose, j'appelle. J'appelle, je demande des conseils. Ou je sais que Carole, elle va venir à la maison. Ou même des fois, je leur texte. Des fois, c'est juste une bonne journée. Se faire souhaiter une bonne journée ou savoir qu'on est là. J'ai toujours été encouragée par Maison Renée. Se faire dire toujours, tu sais, toi, tu es le petit miracle. Quand on vit, on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas. Je survivais, là, tu sais. Mais quand tu es dedans, tu ne sais pas exactement ce que tu vaux, puis qu'est-ce que tu fais exactement. Mais cette petite famille-là, t'es toujours la bienvenue. Tu as besoin de parler, ils vont te prendre la part. Ils ont toujours du temps à t'accorder. Tu sais, c'est pas. Ils ne te parleront pas. Juste de ta maladie, ou fais ci, fais ça, fais pas ça, tu sais, ça, c'est pas correct. Jamais que tu vas les entendre dire ça, tu sais, c'est soudain, c'est.
La Maison Renée est un espace sécuritaire où des liens forts se sont forgés au fil du temps entre les membres et le personnel qui y travaille.
À la Maison Renée, il y a une super équipe. Une super équipe. Tout le monde se tient la main. Tout le monde est là pour les membres. Puis c'est une grande famille. Chacun son département. Mais tout le monde connaît les membres. Fait qu'on dîne ensemble. Les dîners, ça coûte pas cher, 2,5 piastres. C'est réinvesti dans les activités. Donc, quand j'organise des sorties, ben ça leur coûte rien. Ce qu'ils ont payé pour venir manger, ça leur revient. Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 57 ans. Je vis avec le VIH depuis environ une quinzaine d'années. Je suis alcoolique, toxicomane et bisexuel. Mes implications dans le milieu communautaire ont commencé au moment où j'ai su que j'étais atteint par le VIH. Et à ce moment-là, j'ai fréquenté le CSA à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. J'ai rencontré une intervenante qui m'a bien aidé à accepter ma situation et par la suite, je me suis impliqué dans les dépannages alimentaires. Une séparation a fait que je me suis emmené ici en Mauricie et à ce moment-là, j'étais en dépression. Moi, j'étais un hyperactif. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'avoir du social. Donc, pour sortir de ça, j'ai décidé de me mettre en action et de m'impliquer à Maison René. Je suis venu me présenter, j'ai commencé par faire connaissance avec le monde qui fréquente la maison, les usagers, les membres. Et j'ai amené le petit projet d'organiser des activités pour les usagers. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer ici à la Maison René. Mon rôle ici, moi, c'est responsable des activités. Ce que je fais, dans le fond, c'est que j'organise une activité extérieure. Donc, je vais commencer par parler avec les gens, savoir c'est quoi qui leur intéresse. Puis, à partir de là, ben, je vais communiquer les autres qui fréquentent moins la maison. Et je vais essayer de leur vendre l'activité, les motiver à sortir de la maison, à venir participer. Puis au niveau de la paire aidance, parce qu'après ça, au fil des mois, s'est installée la paire aidance là. Alors souvent, ben, je vais juste prêter une oreille, passer des petites réflexions, histoire d'amener des pistes. Je partage beaucoup mon vécu. J'ai arrêté de consommer le chimique, ça va faire 3 ans. L'alcool et le pot, ça va faire 1 an. Alors, sans me vanter, c'est pas histoire de se vanter, c'est histoire de partager, de démontrer que oui, on peut s'en sortir. Je sais que ça l'a motivé d'autres personnes à avancer dans leur vie. La paire aidance, pour moi, c'est d'accompagner les gens là où ils sont rendus. Quand ils se posent des questions, d'essayer de leur répondre. Si je ne sais pas la réponse, ben ça va être de leur indiquer à quelle place ils peuvent trouver. S'ils veulent faire des démarches, c'est de les amener vers les bons endroits. Ça peut être aussi juste de donner de l'écoute. Juste de donner de l'écoute, ça peut être ça. Le fait d'avoir un père aidant ici à la maison, c'est que ça leur permet de briser la solitude, d'explorer des activités qu'ils peuvent faire sans aller consommer. Ils peuvent socialiser. Ils voient que, ben oui, ils ont une vie. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire malgré l'état de santé. Puis moi, je me considère pas malade, là. Je vis avec le VIH et, comme je dis souvent, moi, il dort dans le gros orteil. Fait que je fais ce que je veux de mes journées. Moi, j'arrive chez nous le soir, puis j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de ma journée. J'ai le sentiment d'avoir aidé quelqu'un. Je suis fier de moi, je suis fier de ma journée. Ça me donne un but, un objectif le matin, une raison de me lever. Aujourd'hui, Maison René, c'est un peu ma raison d'être ici.
L'isolement se présente comme un des éléments nuisibles à la construction d'un bien-être facilitant l'accès aux soins et aux traitements au Québec. Particulièrement en Mauricie, le défi est de taille pour les personnes qui n'ont pas de véhicule. La présence d'organismes communautaires aide à surmonter les barrières aux soins puisque ceux-ci répondent à de nombreux besoins. Au-delà des soins de santé, l'aide alimentaire, le transport solidaire, la présence d'un réseau de soutien entre les personnes et d'un lien social très fort contribuent au bien-être des personnes vivant avec le VIH. Comme nous pouvons le constater avec Jean-Marc, le partage du vécu peut constituer une influence positive pour les personnes vivant avec le VIH qui rencontrent des difficultés. De plus, cela permet à tous de briser le sentiment de solitude qui peut s'accompagner avec un nouveau diagnostic de VIH. Nos trois invités nous ont montré à leur manière quelles étaient les dimensions facilitantes et entravantes de l'accès aux soins en Mauricie. Les principaux enjeux concernent l'accessibilité à l'information sur le VIH pour le grand public et le milieu de la santé. Le manque d'éducation contribue à ce que les personnes vivant avec le VIH en rencontrent encore aujourd'hui de la stigmatisation dans leur démarche pour obtenir des soins de santé. Afin de réduire cette stigmatisation, il est essentiel de favoriser un accès optimal à de l'information fiable et vérifiée sur le VIH et les ITS. Si vous désirez vous informer davantage, sachez que le portail offre des formations accessibles à tous sur le VIH 101. On y aborde la prévention, les traitements ainsi que les enjeux psychosociaux. Si vous avez des questions plus précises en lien avec les ITSS ou si vous avez besoin d'accompagnement, nous sommes disponibles la semaine au téléphone, par clavardage et par texto pour vous répondre. Consultez notre site pvsq.org pour plus d'informations ou contactez-nous au 514-523-4636. Nous tenons à remercier Linda pour son partage authentique, Carole qui nous a fait vivre sa passion, et un merci tout particulier à Jean-Marc pour son accueil et sa grande générosité. N'hésitez pas à partager notre épisode si vous avez aimé. Nous sommes présents sur Facebook et Instagram.